Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver comme toutes les semaines avec la petite bande et Mastrac, Patrice Romden et Christophe Brun. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Emma, une question. Vous qui vous entraînez pour le semi-marathon,
maintenant tout le monde le sait, est-ce que
vous avez suivi les conseils de la semaine dernière de Christophe, de coach Cricri, qui disait qu'il ne fallait plus porter de soutien-gorge?
Ah non, pas du tout, j'ai écouté attentivement, mais je ne le sens pas du tout, votre truc.
Alors, je n'ai pas dit plus, j'ai dit que des études montraient qu'on pouvait ne pas en porter aussi. Voilà.
Ne pas porter de brassière.
De brassière ou de soutien-gorge, même de soutien-gorge.
Et Patrice, vous n'en portez pas non plus quand vous courez.
Je me suis demandé du coup s'il fallait qu'on porte un caleçon ou un slip.
Ah ben oui, parce que c'est le même problème.
C'est le même principe.
C'est exactement le même principe.
C'est pas au même endroit, mais...
Vous connaissez bien l'anatomie, Christophe. Au sommaire aujourd'hui, Emma.
Alors moi, je vous aurais bien chanté « Au secours, j'ai besoin d'amour ». Mais ma chronique du jour, c'est plutôt « Au secours, j'ai besoin d'un pansement compressif ou d'un massage cardiaque ».
Ça calme.
C'est moins poétique, mais c'est tellement nécessaire. On parlera des premiers secours auxquels, je pense, nous devrions tous être formés dès le plus jeune âge.
Patrice.
Écoutez-moi ça. Alors cette musique composée
par... C'est pas un extrait de Camille Claudel, le film?
Exactement, composée par Gabriel Yared, film de Bruno Nuiten, donc Camille Claudel, cette femme sculptée à merveille, mais sa schizophrénie paranoïde l'a détruite au point de l'envoyer pour 3 décennies dans un asile.
Christ.
Alors, ça vous dit quelque chose cette musique ou pas?
Bien sûr.
Rien du tout.
Des bouées rouges et des blondes à forte poitrine sur la plage.
On alerte à Malibu.
Exactement. Un petit rappel à vos souvenirs des séries des années 90. Donc alerte à Malibu, non pas Arlette à Malibu. Attention, les maîtres nageurs et les maillots rouges. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon maître nageur qui n'a rien à voir avec ceux d'alerte à Malibu. Mon maître nageur, c'est une appli révolutionnaire qui concentre tout le savoir en matière de natation et de sport nautique.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Très belle musique, Christophe, très beau choix.
Il n'est pas convaincu. Alors, bon.
Emma, vous savez que vous avez tous d'ailleurs beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir souhaiter une bonne fête à Christophe, Patrice et moi, Emma.
Ah bon?
Ah mais bonne fête.
Voilà. Parce que c'est en effet aujourd'hui la Sainte Apollinaire.
Mm-hmm. Et
alors qui dit Apollinaire dit
Guillaume
Apollon.
Ah, oui. Bien sûr.
Vous voyez,
bonne fête.
Donc, bonne fête à nous. Mais je ne peux surtout pas passer à côté d'un anniversaire important. En effet, le 12 septembre, je ne vous dirai pas de quelle année par délicatesse, c'est le jour de la naissance d'une de mes idoles qui, je le sais, n'écoute jamais notre émission. Ne sait pas qui nous sommes, et pourtant, elle nous a accompagnés longtemps l'an dernier. J'ai nommé... Et oui, bon anniversaire à Mylène Farmer. Voilà.
Et des bisous.
Mais je m'égare. Emma, hier avait lieu la journée mondiale des premiers secours et ces premiers gestes peuvent s'avérer utiles dans bien des situations.
Oh que oui, à la maison, dans la rue, sur la route ou face à un événement exceptionnel comme l'ont été les attentats en 2015. Ce sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies et on sait combien les premières minutes comptent dans les cas d'urgence en attendant l'arrivée des secouristes professionnels.
Alors on va rappeler avec vous les gestes de base.
La première chose, c'est de connaître la marche à suivre pour être efficace. Sécuriser le lieu et les personnes impliquées, par exemple si ça se passe sur la route ou même à la maison, d'ailleurs si un outil dangereux est branché. Ensuite, évaluer l'état de la victime, si elle est inconsciente ou si elle est capable de répondre à quelques questions, notamment sur ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on appelle les secours, les numéros d'urgence des pompiers et du SAMU. Ça vous dit quelque chose? Vous les connaissez, vous?
18, oui. Les pompiers.
Ouais.
112, numéro d'urgence européen.
15, okay. Le SAMU.
Bon, parfait, voilà. Vous êtes au point. Donc ça, il n'y a pas d'âge pour les connaître. Hein. Des tout-petits de 4-5 ans ont pu sauver leurs parents en appelant comme ça les secours. Donc apprenez-leur, vous pouvez coller une petite étiquette sur le frigo, par exemple.
Alors une fois qu'on a sécurisé la zone et qu'on a prévenu les secours, on va rester calme. Mmh. Hein, d'abord, on procède au premier geste. On va en voir 4, Emma, qui sont liées à 4 situations d'urgence différentes. On va commencer par une personne qui s'étouffe.
Alors évidemment, ça se passe souvent à table. La personne ne peut plus du tout respirer, c'est-à-dire ni tousser, ni parler. Quelquefois, on entend un tout léger soufflement et généralement, elle porte les mains à son cou. Là, on va commencer par lui donner 5 grandes tapes dans le dos entre les omoplates. Et si ça va mieux, évidemment, on s'arrête là. Sinon, on poursuit avec 5 compressions abdominales.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. Alors, vous vous mettez derrière la victime, vos bras passent sous les siens et avec votre poing serré, qui est situé à mi-chemin entre le nombril et le sternum, bah vous appuyez fort, vous enfoncez votre poing à l'aide de l'autre main et vous faites ça 5 fois de suite. En fait, ça va faire remonter brutalement le diaphragme qui va augmenter la pression d'air dans les poumons et qui va aider à expulser le corps étranger. Je peux vous dire que ça marche. Moi, j'ai sauvé 2 personnes dans ma vie comme ça, dont ma belle-mère d'ailleurs. Et je vous assure qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour faire ça.
Alors, si ça ne devait pas suffire, on recommence avec l'étape. Et si la victime perd connaissance, évidemment, on appelle les secours.
Voilà, face à un saignement important maintenant.
Alors là, il s'agit de comprimer la plaie pour arrêter l'hémorragie. Donc, on allonge la victime et on prend ce qu'on a sous la main, un torchon, un collant, un sweat ou ses mains, même si l'idéal, c'est évidemment d'éviter le contact avec le sang. Mais voilà, on fait pression sur la plaie pour arrêter le saignement et puis on appelle les secours.
Troisième situation, comment on prend en charge une victime qui a perdu connaissance, mais qui respire? On le reconnaît bien sûr au fait qu'elle ne réagit pas, mais on regarde bien sa poitrine se soulever et on sent bien sûr le souffle.
Alors on l'allonge sur le dos pour libérer ses voies aériennes, on lui bascule un petit peu la tête en arrière, on desserre son col si besoin et puis on la place en PLS, la position latérale de sécurité. C'est pas compliqué, il s'agit de la faire basculer sur le côté, mais je vous invite à aller voir la marche à suivre sur le site de la Croix-Rouge. Vous pourrez même vous entraîner d'ailleurs en famille.
Oui, parce qu'il faut se servir aussi du genou de l'autre jambe pour bien tenir. Alors une fois la victime qui est mise en PLS, on appelle les secours bien sûr. Et puis autre grande urgence très impressionnante, là c'est la victime qui ne respire plus.
Alors là évidemment il faut immédiatement prévenir les secours et pratiquer ensuite un massage cardiaque. Donc c'est 30 compressions au niveau du thorax et puis on souffle 2 fois dans sa bouche et on recommence et on ne s'arrête pas tant qu'elle ne s'est pas remise à respirer.
Voilà, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui que le bouche à bouche n'est pas indispensable. Le fait que vous appuyez, si vous savez vraiment faire un massage cardiaque, le fait d'appuyer sur la poitrine suffit à faire rentrer ou sortir l'air des poumons et à faire une sorte de ventilation artificielle. Alors c'est très impressionnant, on peut se dire qu'on ne saura pas faire. Il vaut mieux un massage maladroit que pas de massage du tout. Donc allez-y, on peut vraiment changer les choses et sauver la personne. Et puis s'il y a du monde avec vous, parce que c'est fatigant de faire un massage cardiaque, bah, vous passez le relais. Et puis surtout, vous demandez à quelqu'un s'il y a un défibrillateur dans le coin.
Voilà, et juste un dernier mot, une dernière situation à risque, c'est le malaise. Donc là, la victime se sent mal. Alors elle peut se plaindre de douleur à la poitrine ou de vertige. Là, dans ces cas-là, il faut l'installer dans une situation confortable pour elle. Lui poser quelques questions, depuis quand ça dure, est-ce qu'elle a pris des médicaments, quels sont les symptômes et puis indiquer toutes ces infos aux secouristes qu'on va évidemment appeler.
Voilà, c'est pas grand chose mais ça peut sauver des vies, Patrice.
Petite précision, on a parlé des numéros d'urgence, j'ai oublié de citer le 114 aussi, ça c'est pour les personnes sourdes et malentendantes qui peuvent envoyer un SMS à ce numéro.
Louis-Marie Poitou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la formation à la Croix-Rouge française. Alors cette année, la journée mondiale des premiers secours, qui va se décliner d'ailleurs tout au long du mois de septembre, est consacrée à la formation des jeunes. Pourquoi cette thématique des jeunes là ?
Les jeunes, ils sont capitales. Si demain on veut qu'il y ait davantage de personnes qui passent à l'action, l'apprendre dès le plus jeune âge, rentrer les gestes de secours parmi les automatismes du quotidien et ne plus appréhender de savoir agir le moment venu, comme vous l'avez détaillé juste avant.
Emma.
On a souvent parlé d'intégrer la formation aux gestes de premier secours à l'enseignement scolaire. D'ailleurs, le gouvernement avait prévu de former tous les élèves de 3e à l'horizon 2022. C'est le cas ? Enfin, on en est où en tout cas aujourd'hui ?
Alors, les statistiques de l'éducation nationale montrent que environ 30% des élèves de la classe d'âge de 3e ont reçu au cours de leur scolarité une initiation, une formation aux gestes de premier secours. Ça commence d'ailleurs dès le plus jeune âge, hein, vous évoquiez 4-5 ans, et puis ça se prolonge tout au long de la scolarité. Toute la classe d'âge n'est pas formée parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne peuvent pas profiter de ces formations dans le cadre de leur scolarité. C'est un progrès à accomplir.
Patrice,
vous avez parlé de formation pour des enfants de 4-5 ans à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre ?
Et l'objectif, c'est avec les parents, mais surtout avec l'appui de l'enfant, d'identifier les risques de la maison, que ce soit les risques dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre. C'est à la maison, finalement, que l'essentiel des accidents surviennent. C'est pour ça qu'on parle d'accidents domestiques. Et cet éveil, il est fondamental à la fois pour l'enfant et puis pour les parents.
Et puis, si on sort de la cible des enfants, il y a aussi l'utilisation et la mise à disposition des défibrillateurs semi-automatiques, ces machines qu'on trouve quand même beaucoup, un petit peu partout. Il y a même des applis qui vous disent où vous pouvez trouver un défibrillateur. Alors c'est une machine qui peut faire peur au grand public et pourtant c'est tellement simple. Vous ouvrez la machine, tout est indiqué. Il n'y a plus qu'à appliquer. Même parfois, c'est une voix hein, qui nous indique le chemin. Est-ce que on en a suffisamment en France ?
Vous dire qu'il y en a assez, sans doute pas, parce qu'il y a bien des situations où le défibrillateur est trop loin pour prendre en charge la personne qui ne respire plus.
Merci beaucoup Louis-Marie Poitou. Je rappelle que vous êtes le responsable formation à la Croix-Rouge française et il faut profiter hein, de ce mois de formation aux gestes de premier secours. On peut toujours avoir besoin de vous et encore une fois, il vaut mieux mal faire devant un arrêt cardiaque que de ne pas faire du tout, puisque bien évidemment, par définition, si on ne fait rien, il n'y a aucune chance de survie. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans quelques instants avec Maître Capello, Patrice Romden, ah bon, qui va nous parler de Camille Claudel.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Camille, la vie, c'est le seul vrai mélo. Ça parle d'un grand éclat de pleurs. Ça rit avec des trémolos. Camille,
Camille, dont Serge Reggiani, le grand Serge Reggiani, chante les louanges, c'est Camille Claudel. Alors cette femme avait la beauté, l'envie, le talent, la passion. La vie se chargea de transformer cet or en folie pour la parquer dans un asile du Vaucluse à Montfavet. La schizophrénie paranoïde de Camille Claudel est sans doute l'un des plus beaux gâchis de l'histoire de l'art, Patrice.
Oui, et pour singer le Gavroche de Hugo, je dirais que c'est la faute à l'amour. Cet amour qui éclot en 1885, quand Rodin engage Camille Claudel comme praticienne. Elle est la fougue, il est le métier, elle l'inspire, il lui transmet, elle sculpte pour et par lui. L'amour magnifie la collaboration des artistes, le travail galvanise la passion des amants. La famille de Camille ne doit rien savoir, la compagne de Rodin, Rose, ne doit rien savoir non plus.
Ouais, sauf que les amours clandestines, ça va un temps. Camille se voit de moins en moins en maîtresse, de plus en plus en épouse. Mais ses demandes en mariage restent lettre morte.
Alors forcément, leur relation se dégrade. La perte de l'être aimé inspire à Camille d'ailleurs une sculpture qui fera date, l'âge mûr. Alors ça représente une vieille femme qui entraîne un homme d'âge mûr qu'une jeune femme agenouillée voudrait retenir. Cette œuvre est réalisée à la suite d'une commande officielle, la première reçue par l'artiste qui va endurer une double blessure. Non seulement l'amour s'éloigne, hein, mais en plus l'État annule sa commande, laissant Camille dans le chagrin et sans le sou.
Oui, parce qu'il y a le manque d'amour, mais il y a aussi, Patrice, le manque d'argent. Camille Claudel s'installe sur l'île Saint-Louis et là elle va faire connaissance avec les huissiers.
Oui, l'idée qu'on puisse lui prendre ses œuvres la tétanise. Elle ne sort plus, veille sur son trésor. Amère de s'être donné corps et âme à un art qui refuse de la payer en retour. De quoi devenir dingue, d'ailleurs, ça va pas tarder.
Ouais, Camille Claudel s'isole. Elle oublie de se laver, elle mange pas parce qu'elle n'a ni l'envie ni les moyens. Et elle trouve quand même la force de travailler, mais la paranoïa va la guetter.
Oui, elle est persuadée qu'on la persécute, que quelqu'un détruit ses œuvres. Tout se dégrade. Hein. Son père voudrait qu'elle s'installe dans la maison familiale qu'il a vue grandir. Elle réfute l'idée. D'ailleurs, sa mère est contre. Hein. Elle ne pardonne pas à sa fille d'avoir choisi un métier d'homme et d'avoir fricoté avec Rodin, de 24 ans son aîné. Le 10 mars 1913, une semaine seulement après la mort de son père, dont elle n'a même pas été informée, hein, Camille Claudel se fait embarquer par deux infirmiers gentiment envoyés par la famille. Motif, délire de persécution.
Et c'est la presse qui va dénoncer un internement abusif, mais la polémique fait long feu.
Oui, de toute façon, Rodin meurt en 1917. Madame Claudel, mère, ne viendra jamais voir sa fille. Et seul le frère de Camille, Paul Claudel, le poète, lui rendra visite à 12 reprises. Camille Claudel restera 30 ans quand même, hein, enfermée dans son asile, enfermée sur elle-même aussi, avant de s'éteindre en 1943.
Merci Patrice. Après cette affaire dramatique, vous avez de quoi nous faire sourire ou pas du tout, Emma?
Écoutez, je voulais en tout cas vous donner un petit conseil puisqu'on est encore dans la période des inscriptions aux différents clubs de sport là pour la rentrée. Je voulais vous dire ou vous rappeler que pour certains sports, le port d'un protège-dents est obligatoire. C'est le cas de la boxe, du taekwondo, du hockey sur glace et du football américain. Et puis, il est aussi recommandé dans d'autres disciplines comme les arts martiaux, le basket, le volley, le rugby, le foot, le cyclisme, le ski. basket, l'athlérophilie. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal. Pas seulement des sports de contact, donc, mais aussi ceux dans lesquels on risque des chocs ou bien de serrer fort les dents quand on se concentre. Par exemple, c'est le cas de l'haltérophilie. Ce protège-dents, vous le trouverez dans les enseignes sportives avec des tailles standards qui s'adaptent ensuite à la dentition ou à l'appareillage de chacun. Et pour les sportifs de haut niveau, il peut être fait sur mesure chez le dentiste, mais évidemment, ça coûtera plus cher, entre 150 et 200 euros contre quelques 35 euros en magasin. Toutes ces infos, je les dois au professeur Michel Legal, qui est chef du service d'orthodontie à l'hôpital de la Timone à Marseille.
Et on rappelle aux parents et aux médecins aussi, d'ailleurs, qu'on ne fait pas des certificats de contre-indication à la pratique du sport dit de complaisance, parce que les parents voudraient que leur enfant n'aille pas à la piscine en plein hiver et risque d'attraper froid en sortant avec les cheveux mouillés. Le sport, c'est bon pour les enfants, pour leur santé et pour la vôtre aussi, chers parents. Christophe.
Oui, en parlant d'enfants, une dame va chez le médecin dit « Alors comment vont vos trois enfants ?»« Oh, bah, mon premier à la grippe, mon second au COVID angine et mon dernier à la diarrhée. » Alors vous en dites quoi ? Le médecin lui dit « Bah, vous savez, moi, les charades.
» Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec Dr Good en kiosque actuellement, avec en cours couverture, tout ce qu'il faut pour ne pas stresser, pour avoir une rentrée et une vie très zen. Anxiété, déprime, stress, non merci. Et puis tout un dossier sur la chirurgie qui fait sa révolution, le magazine Dr Good qui est en kiosque actuellement. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3 avec la partie
Youhou,
on va jouer.
Ça va beaucoup mieux.
La Minute Numérique Santé.
La Minute Numérique Santé avec Christophe Brun. On vous rappelle que le 1er janvier 2022, le prochain, eh bien, il va y avoir l'espace numérique de santé qui va être mis en place, sur lequel on aura toutes nos données concernant notre santé sur cet espace numérique qui, bien sûr, Christophe, est complètement sécurisé. Et toutes les semaines, on répond à une de vos questions. Et là, c'est Chan qui doit subir une intervention chirurgicale à l'hôpital près de chez lui. Son médecin lui a dit qu'il pouvait préparer son admission sur le portail internet de l'hôpital. Il n'a jamais fait ça. Il nous demande ce qu'on en pense. Et c'est vrai que si on peut éviter de passer 4 heures à attendre qu'il y ait un guichet qui se libère, ce serait mieux.
Et oui, c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les cliniques ou dans les dispensaires, on vous propose des plateformes pour préparer votre dossier d'admission, qu'il soit administratif ou médical. Il suffit d'aller sur le site internet donc de l'établissement de soins. Vous pouvez donc faire ça de chez vous. Premier avantage, vous gagnez du temps. Deuxième avantage, toutes les infos liées à votre intervention chirurgicale sont centralisées dans un dossier, donc vous les retrouverez facilement. Et troisième avantage, le dossier, comme vous le dites Michel, est bien entendu sécurisé.
Et vous nous rappelez ce qu'on trouve dans ce dossier numérique sécurisé.
Alors là, on peut tout retrouver vous concernant, vos analyses, vos radios, la lettre de votre médecin traitant, votre carte vitale, votre mutuelle, bref, toutes les infos, toutes vos infos médicales et administratives. Et franchement, ça ne peut que contribuer à votre sérénité au moment où vous aurez à vous entretenir avec le médecin qui vous prendra en charge avec son équipe. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations, on le rappelle toutes les semaines, sur le site oui-à-la-santé.fr, tout attaché en minuscules. Et ce site vous montrera comment la e-santé et tout ce qu'elle propose, on parle des données de santé, mais aussi des applications sur ce store, en quelque sorte. Tout ça vous permet de prendre votre santé en main, c'est pas plus mal.
Voilà, et puis quand on parle de sécurité, on rappelle quand même une petite règle déontologique. Normalement, les médecins ne peuvent avoir accès à des dossiers de patients que s'ils sont concerné directement par le patient. Autrement dit, si vous faites partie de la chaîne de soins de ce patient, parce que j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait une trentaine de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé qui étaient allées jeter un œil sur le dossier vaccination du président de la République, d'Emmanuel Macron, en ayant accès avec le numéro de sécurité sociale. Mais c'est complètement dingue, quoi.
Ils se sont pris un petit blâme de l'ordre, si je me souviens bien, d'ailleurs.
J'espère qu'ils vont prendre plus qu'un blâme.
Une remise à, comment on dit, d'ailleurs,
c'est pas blâme. Oui, on leur rappelle les règles de déontologie que, manifestement, ils n'avaient pas lues. Bien, merci, Christophe,
de rien,
pour
Michel.
Cette info. Voilà. Et maintenant, c'est le jeu.
Michel Simès sur RTL,
ça va beaucoup mieux.
Qu'est-ce qu'on gagne, Michel ?
Alors, je rappelle...
d'abord, on gagne rien.
D'abord, on va prendre la personne qui joue avec nous, c'est Laurence. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va bien, Laurence ?
Ça va très très bien, c'est avec vous, ça va très bien.
Bon, vous êtes responsable du personnel d'accueil d'un supermarché de la région parisienne, c'est bien ça ?
C'est ça.
D'abord, je vais vous dire ce que vous allez gagner si vous répondez bien. Je rappelle, une énigme, une question, trois versions. Il y en a une seule qui est bonne. Et vous gagnez une tablette tactile facile au table, une grande tablette tactile équipée de ce système avec un écran qui est simple, qui est complet dès le démarrage de la tablette. Quelque chose de vraiment très facile à prendre en main. Écoutez bien, Laurence.
D'accord.
En matière de chirurgie esthétique, nous savons tous qu'il y a les grands classiques, hein, les seins, les lèvres, les fesses, les rides. Mais dans certains pays, ça dépasse parfois l'entendement et on pratique des opérations qui peuvent surprendre parce que franchement, il fallait y penser. Voici trois versions. Je vous rappelle qu'une seule est vraie. Version Emma.
Ce dont je vais vous parler, cher Laurent, se passe au Brésil, qui est évidemment un pays pionnier en matière de chirurgie esthétique. Figurez-vous que de plus en plus de Brésiliens se font implanter un sixième doigt de la main. Et c'est pour des raisons pseudo-esthétiques, plus que pour des raisons pratiques, même si la mode a été lancée par une pianiste brésilienne du nom de Ronaldine Stita, qui dit avoir besoin
de... La sœur de Ronaldinho.
Ça, je ne peux pas vous le préciser, je n'ai pas cette information. Mais en tout cas, elle dit avoir besoin de ce sixième doigt pour bien maîtriser son répertoire. Je précise quand même que c'est un doigt en silicone.
Oui, on espère qu'on ne l'a pas pris chez quelqu'un. Version Patrice.
C'est crédible hein, ce que je viens d'entendre. C'est...
Oui. Ah oui, pour une pianiste.
La vérité, c'est ce qui se passe au Japon, où de plus en plus de personnes se font faire une chirurgie esthétique des lignes de la main. Alors ça concerne évidemment des gens superstitieux qui sont persuadés que s'ils modifient leur ligne de la main, celle de la chance, celle de l'amour, celle de la longévité, celle de la fortune, eh bien leur destin en sera modifié. L'opération coûte l'équivalent de 750 euros.
Les lignes de la main.
Les lignes de la main.
Ah bah, ils sont tarés. Oui, monsieur.
Ouais. Si c'est vrai, ils sont tarés quand même. Version Christophe.
Vous allez voir que moi, c'est beaucoup plus terre à terre. La vérité, c'est cette tendance qu'on observe un peu partout depuis 2 ou 3 ans qui consiste, lorsqu'il y a circoncision, à récupérer le bout de peau pour ensuite se le faire greffer sur son propre corps à un endroit discret.
Non mais, on sent que Laurence vous croit là.
Voilà. Alors, on ne peut pas non plus faire n'importe quel greffon. Il n'est pas très gros le bout de peau quand même. Mais les gens pensent à ça. Ça permet d'être en phase avec la célèbre formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et voilà.
Très bien.
Ça, c'est la bonne version.
Donc, ça s'appelle. Vous savez comment ça s'appelle ce petit morceau de peau qu'on retire dans la circoncision?
Vous allez me dire une bêtise. Non, je sais pas.
Bah, c'est le prépuce.
Oui,
bah,
oui, ça s'appelle. Oui. Vous voulez me piéger, merde.
Bah, si, c'est le prépuce. Hein,
est-ce qu'on pourrait se le faire regreffer au même endroit?
Ça n'a pas grand intérêt, surtout.
Oui, c'est... non, mais si on change d'avis.
Si vous changez d'avis, oui. Là, c'est trop tard. Laurence.
On a perdu Laurence.
Oui.
Laurence, elle est pliée en 12. Laurence, je vous rappelle les trois possibilités. Vous avez le prépuce,
oui.
Donc, qui est bien évidemment va être.
Il a failli dire le prépuce de Christophe.
Vous avez la version d'Emma, je l'ai oublié, c'est quoi Emma?
C'est le sixième doigt.
Le sixième doigt.
Et la version de Patrice, le fait de se faire refaire les lignes de la main pour avoir plus de chance.
Je pense qu'il faut se tarer, comme vous dites, mais je vais prendre les japonais.
Bravo. Bravo. Eh bien, bravo, vous avez gagné, je vous le rappelle, une grande tablette facile au table, une tablette tactile hein, équipée de ce système. Alors, ça demande des explications quand même, Patrice.
Oui, vous avez de plus en plus de Japonais, mais c'est aussi très en vogue hein, en Corée du Sud, qui modifient leur ligne de la main dans l'espoir de modifier leur destin. Alors, pour l'opération, on utilise un scalpel électrique et c'est réglé en fait en un quart d'heure, hein, sous anesthésie locale, bien sûr. On trouve pas mal de témoignages dans la presse japonaise avec des gens qui vous disent avoir trouvé l'homme ou la femme de leur vie juste après s'être fait opérer. Alors, on ne peut pas exclure la coïncidence, hein, c'est une litote, ou même une sorte d'effet placebo, hein, parce qu'on se fait opérer, on se dit, bon, ben maintenant, voilà, je suis opéré, je vais trouver l'homme de ma vie, et comme par hasard, le lendemain, bingo, ça fonctionne.
Ah ben, oui, puis ça se passe mal, on peut toujours se faire greffer à la place le petit bout de prépuce.
Sur la ligne de la main.
Sur la ligne de la
main. Si vous voulez un sixième doigt, vous pouvez le mettre aussi.
Appelez-moi.
Merci beaucoup, Laurence, et bravo, vous avez gagné cette tablette
merci
facile
beaucoup.
Au table, une tablette tactile. Et puis, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez jouer avec nous, vous vous inscrivez sur la page de l'émission Ça va beaucoup mieux sur le site de RTL.
Merci, au revoir.
Et au revoir.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Et nous prenons notre QI. question à l'invité avec notre ami Philippe Lelièvre. Bonjour Philippe.
Bonjour messieurs, dames. J'espère que vous allez bien après toutes ces questions tout à fait insolites.
Ah ouais,
vous avez la bonne réponse.
Vous aviez la bonne réponse.
Vous savez ce qu'était un prépuce.
Un prépuce à la place d'un doigt.
Voilà. Alors Philippe, on a voulu vous prendre au téléphone aujourd'hui parce que après votre spectacle Givré en 2007, toujours Givré en 2010, vous revenez avec plus que Givré à partir du 24 septembre et ce jusqu'au 30 janvier au théâtre Les Enfants du Paradis dans le 9e arrondissement de Paris. Alors, vous allez nous pitcher un petit peu votre spectacle, mais si on a voulu vous prendre dans une émission consacrée à la santé, c'est parce que vous avez, vous l'avez calculé, 14 ans de plus qu'en 2007. Or, il se trouve que vous interprétez combien de personnages là en même temps ?
Je crois qu'on est à 9, 10, enfin, un truc comme ça. Après, il y a des personnages qui sont très éclairs. Donc ça peut faire plus que ça, mais réellement, oui, il y a 9 personnages.
En tout cas, c'est une véritable épreuve physique à laquelle vous vous êtes préparé. Donc d'abord, de quoi s'agit-il ?
Alors, ça commence comme une répétition de théâtre, sauf qu'on est un peu chez les amateurs. Il y a un metteur en scène très sûr de lui qui a écrit une pièce lamentable, un vaudeville, tout à fait exécrable. Et il joue avec des amis à lui qui ont du mal à trouver du boulot. Une dame d'un certain âge, un type qui a fait l'acteur studio. Enfin bref, des personnages, c'est assez hétéroclite. Et ils essayent de monter cette pièce. Et c'est là, en fait, qu'on commence à rire. Parce que tellement c'est nul, on va commencer à bien se marrer. Et très vite, on oublie le théâtre pour parler de ces personnages qui vont aller, grâce à un gain au loto-foot, vont partir finir les répétitions dans le perche. Et c'est là que
ça part en vrille.
Ça va se gâter.
Voilà. Et donc, bien sûr, c'est un spectacle dans lequel on rit. Alors, vous jouez plusieurs personnages. Encore une fois, c'est 14 ans après la première. Est-ce que vous êtes préparé différemment ?
14 ans après, jouer un spectacle dans lequel je perdais 3 kilos après chaque représentation. Donc, un spectacle extrêmement physique. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de le refaire ? Donc, j'ai d'abord dit non. Et puis, après, le verre était dans le fruit. Donc, j'ai rappelé en disant, bon, ah oui, je vais essayer. Et puis, je me suis préparé pour tenir 1h20 à 150. Quoi. Voilà.
Ça veut dire quoi ? Vélo, perte de poids, régime ?
Je suis en plein jeûne intermittent. J'ai commencé fin juillet. En fait, ce que ça m'a apporté, le jeûne, j'ai perdu quelques kilos, mais j'ai surtout gagné beaucoup, beaucoup d'énergie.
Le jeûne intermittent, c'est quoi ? C'est que vous ne mangez pas le soir ?
Je ne mange pas pendant 16 heures. C'est-à-dire que j'ai le droit de me nourrir pendant 8 heures, pendant 16 heures, je suis abstinent.
D'accord.
Donc j'ai perdu quelques kilos, c'est ce qui n'est pas négligeable, puisque je fais également du vélo, et perdre des kilos quand on fait du vélo, c'est bon aussi, parce qu'on voit moins le bidou qui pendouille quand on est en position de recherche de vitesse. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai essayé de m'affûter. Parce que ce spectacle, au-delà d'être un spectacle de théâtre seul, c'est vraiment une performance, en tout cas physique, pour un gars de 75 ans comme moi.
Ben voilà. Alors, Philippe Lelièvre, on va venir vous voir. D'ailleurs, moi je vais venir, bien évidemment. Les trois chroniqueurs qui sont avec
Mais
moi
m'ont sûr.
Dit, est-ce qu'on peut y aller ? Je vous laisse voir avec eux. En tout cas, le spectacle, c'est plus que givré avec l'excellentissime, un de nos meilleurs acteurs français.
Tout
je crois
à
que
fait.
Non, franchement,
c'est... Tout à fait.
Vous pesez vos mots. Il pèse ses mots.
Et ouais. Je pèse mes mots. Philippe Lelièvre, le célébrissime Philippe Lelièvre, plus que givré, à partir du 24 septembre,
Exactement.
C'est au théâtre Les Enfants du Paradis, dans le 9e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Philippe, et on vous dit un gros
merci
pour votre nouveau...
Je le prends, je vous remercie, je vous embrasse individuellement.
Merci beaucoup. Dans quelques instants, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission.
Ça va beaucoup mieux sur RTL
avec Michel Simès.
Et c'est la partie 4 de l'émission avec Coach Cricri. Alors Christophe, comme ça, vous avez un maître nageur.
Oui, j'ai un maître nageur à moi. C'est une appli en fait qui propose une kyrielle de programmes de conseils de formation sur la natation et d'autres sports nautiques, comme l'aquagym, les bons trucs pour les bébés nageurs, vous allez voir, c'est vachement bien. Et beaucoup de choses encore sur l'aquabiking, l'aquatraining, l'aquapilate, le paddle. L'idée des fondateurs de mon maître nageur repose sur trois constats. Le premier, vous avez dû en entendre parler, c'est le développement spectaculaire des piscines privées, notamment depuis le confinement, avec plus de 3 millions de piscines aujourd'hui. Le second, c'est le manque de maîtres nageurs en France. On parle de 5000 postes vacants. Et le dernier constat, c'est la difficulté grandissante pour ceux qui le souhaitent d'avoir accès à des cours de sport nautique et notamment à la natation.
Il y a aussi l'aqua, ça sert. Donc les fondateurs se sont dit, on va permettre à tout à chacun d'avoir un maître nageur au creux de la main.
Exactement, et pour chaque activité, l'application propose les séances correspondant à ce que vous recherchez avec différents niveaux de difficulté, et même en fonction de votre état de forme. Et sous l'autorité de son fondateur Jérôme Le Serre et de sa sœur Laure, qui ont inventé ce service, service. Ces accompagnements sont assurés par des coachs diplômés, expérimentés et spécialisés.
Ah, attendez, comment ça se passe? Je pose ma tablette ou mon mobile au bord de la piscine et j'entends quelqu'un qui me parle. Je suis un cours en quelque sorte.
Alors, exactement. D'abord, l'application vous donne tous les conseils pour installer et protéger votre matériel, donc Patrice, au bord du bassin. Ensuite, vous avez des cours hyper ludiques avec des méthodes d'apprentissage simples. Et c'est comme un vrai cours, comme si un vrai maître nageur était au bord de la piscine pour vous. Voilà Patrice, vous voyez, ni vous ni votre portable ne toucherez le fond de la piscine en fait.
Il pense à tout. Hein.
Et alors ça coûte combien d'avoir mon petit maître nageur là au bord du bassin?
Calmez-vous.
Alors, oui.
Un petit pas petit?
Oui, non, il peut être grand. Non, ce maître nageur là perso ne coûte rien puisque son téléchargement est gratuit sur iOS et Android. Et vous avez accès gratuitement donc à un tronc commun de choses que vous pouvez suivre. Et vous aurez bientôt à dispo d'autres modules plus sportifs en natation notamment qui seront cela payants. Et puis mon maître nageur va permettre aussi à la maman que vous êtes Emma d'apprendre vous-même à nager vos enfants. Elle donne de très bons tuyaux pédagogiques pour ça. Et je signale d'ailleurs que cette chronique, maintenant, comme dimanche dernier, la mienne, donc, est retrouvable sur le site du Point, sur l'adresse lepoint.fr, évidemment.
Trouvable.
J'y tenais. Ah,
j'y tenais. Maître Capello.
Alors, c'était cherchable.
Une brève, Maître Capello ou Emma?
Emma.
Est-ce que vous savez ce que désigne la ménarche?
La ménarche,
c'est pas un oiseau.
On pourrait croire, mais pas du tout. C'est la période à laquelle apparaissent les premières règles, généralement vers l'âge de 12 ans et demi. Dans un premier temps, le cycle et le flux menstruel peuvent être irréguliers. Et généralement, tout se stabilise 2 ans après le début des règles, donc après la ménarche.
D'accord. M-E-N-A-R-C-H-E, donc.
Oui.
Oui. D'accord. Bah, okay,
ménarche, quoi. Ménarche, ouais, voilà. Patrice,
Alors,
qu'est-ce qu'il dit?
Comme vous le savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, beaucoup d'enfants et de parents s'aperçoivent que l'enfant a un problème d'audition à l'école et un peu tardivement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est anticiper en faisant un petit test avec vos enfants, en les appelant par exemple lorsqu'ils ont le dos tourné, sans hausser le ton. Voyez s'ils réagissent. Vous pouvez aussi leur demander de répéter des mots que vous prononcez. Par exemple, vous dites voiture, l'enfant dit voiture. Vous dites ballon, l'enfant dit ballon. Et ensuite, vous dites la même chose, mais en mettant une feuille devant la bouche. Et vous dites par exemple ciseau. Si l'enfant, sans hausser le ton toujours, si l'enfant n'arrive pas à répéter, ça veut dire qu'il lisait un petit peu sur vos lèvres, donc qu'il compensait, donc qu'il a peut-être un problème d'audition. Voilà, ça, ce sont des tests qu'on peut faire moment de la rentrée scolaire.
Christophe,
moi,
un dernier mot.
Avec un quiz très rapide. Vous savez combien on a de muscles sur le visage et surtout de combien d'expressions de visage on est capable?
24.
Alors 50 muscles, ça je vous aide, mais combien d'expressions de visage est-on capable de produire avec ces 50 muscles?
C'est 50 muscles.
Non,
c'est
il vaut
Le chiffre, on est capable de produire 5000, vous avez bien entendu, expressions de visage différentes. Voilà, sur la base de 50 muscles.
Bon, d'accord.
C'est fou, non?
50 muscles, 5000, donc voilà. Par muscle. D'accord, ok.
100.
On est moins bon en maths que
dans les mots.
Divisé par 50
égale 100.
C'est une catastrophe. Merci.
Je ne vous le fais pas dire.
Merci beaucoup, Emma. Merci, Christophe. Et merci, Patrice. Nous vous retrouverons, chers auditeurs, la semaine prochaine, toujours à 9h15, toujours sur RTL. Et surtout, n'oubliez pas la vie.
C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon.
Voilà, interprété par Air Taquit, notre chanson, c'est si bon. Parce qu'effectivement, la vie, ça peut être aussi très sympa. On vous retrouve la semaine prochaine à 9h15 sur RTL avec la petite bande. Salut les amis.
Au revoir.
Très bon dimanche à tous.
C'est bon.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
Voilà, c'était.